sont présentés par Johanna Martin et Antoine Gélin. Bonjour.
Bonjour Mandy.
Bonjour Mandy, bonjour à tous. L'économie, elle peut être aussi sociale et solidaire. Comment? C'est la question qu'on pose dans cette émission à des spécialistes du secteur. D'ailleurs, il ne s'agit pas d'un secteur à proprement parler, mais d'un écosystème en fait. Regroupant beaucoup de secteurs économiques, les entreprises aujourd'hui peuvent se consacrer à un but social, tout en créant des emplois. Oui, oui, c'est possible.
La preuve, l'économie sociale et solidaire à La Réunion, c'est près de 26 000 emplois, 18% du privé. Et plus de 2000 établissements. À Mayotte, le modèle fonctionne très bien. 2600 emplois sont dans l'ESS, hein, cette économie sociale et solidaire, et cela tend à se développer. La France, dans son ensemble, Outre-mer compris, est un modèle européen en la matière. Malgré tout, l'économie sociale et solidaire des Outre-mer est un peu différente. On y reviendra.
La crise Covid a accéléré les projets de l'économie sociale et solidaire pour une raison simple, les difficultés du confinement ont ravivé la flamme d'un changement de modèle qui bénéficierait au plus grand nombre. Bloqués chez nous, nous avons pris conscience que seuls, nous n'allons pas plus vite, mais qu'ensemble, beaucoup de choses sont possibles.
Des adages qui partagent un idéal, mais au final, une question demeure. Comment générer de la richesse? Lorsque l'on entend solidarité, évidemment, on pense bénévolat et donc don de soi. En cette période de crise, le Graal, c'est plutôt l'emploi et si possible, l'emploi non précaire.
Des emplois inclusifs, solidaires, à but social et souvent soucieux de l'impact environnemental qui permettrait un développement de l'économie locale. Alors, est-ce une utopie ou est-ce que l'économie de demain sera davantage axée sur l'humain? On en parle ce midi avec Ben Amar Zeghadi. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes le délégué national pour l'économie sociale et solidaire en France, à l'outre-mer, en Europe et à l'international. Bienvenue sur RTL. Denis de Fargue, bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes de votre côté directeur associé de la société Regain et coordonnez ce que l'on appelle la Casa Projet. On va en parler bien évidemment avec vous particulièrement. Vous avez à cœur le développement durable, hein, si je ne me trompe pas. Autre grand pan de l'économie sociale et solidaire. On en parle tous ensemble au 02-62-234-567.
Ça calme. Qu'est-ce qu'elle est belle. On a découvert cette chanson grâce à vous hier et vraiment, c'est un vrai coup de cœur pour nous ici à la rédaction. La chanteuse s'appelle Zili, c'est ça?
Exact.
Et la chanson, évidemment, la chanson est en rapport avec notre émission, elle s'appelle ESS Song, donc on imagine que économie sociale et solidaire Song. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Ben Amar Zeghadi?
Oui, bien sûr, c'est donc Zili, une artiste mahoraise plutôt populaire hein, sur le territoire et sur l'ensemble de la diaspora à Mayotte. Elle a voulu, je crois, cette artiste, au travers d'une chanson, donner de la profondeur à l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire cette économie intime de la façon de faire et de la façon de vivre à Mayotte, en convoquant les traditions, en convoquant l'histoire. Cette chanson est in fine qu'une convocation de l'ensemble de comment Mayotte était... Odina Karibou est une façon de rappeler de façon assez percutante d'ailleurs ce qu'est le Mahorais dans son quotidien, c'est-à-dire toujours dans la décision collective, toujours pour le collectif, dans le partage du bénéfice collectivement, dans la décision collective. C'est très intéressant et évidemment elle invite à la population, les gens, les entreprises à se rendre à la CRES, c'est ce qu'elle dit dans son refrain, en disant que la CRES va être en capacité, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de Mayotte, en capacité de traduire cette tradition en 2.0.
02-62-234-567. Nous sommes avec Ben Amar Zeghadi, délégué national pour l'économie sociale et solidaire France à l'outre-mer, l'Europe et à l'international. Nous sommes également avec Denis de Fargue, directeur associé de Regain. Et vous pouvez évidemment appeler pour parler de ce secteur, ce domaine de l'économie sociale et solidaire, encore trop peut-être méconnu dans l'inconscient collectif, mais qu'il l'est de plus en plus, puisque vous répondez aussi, quelque part, en tant qu'entreprise, à une demande. Et il y a une vraie demande. À Mayotte, vous en parliez il y a un instant, on a les chiffres tout à l'heure, là, on a donné les chiffres, 26 000 emplois à La Réunion, 18% du secteur privé. Donc déjà, on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est, qu'est-ce que c'est ces entreprises qui s'investissent dans l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce qu'elles font de différent par rapport aux autres entreprises, par exemple ?
Messieurs.
Allez-y, quand vous voulez. Ils sont tellement petits, il y en a qui se donnent la parole.
Ben Amar, peut-être pour commencer.
Oui, l'ESS, c'est vrai qu'on en parle de façon assez neuve, mais en réalité, c'est une histoire extrêmement profonde, attachée à des territoires qui vont au-delà de nos Outre-mer, même si ce mot, j'aime pas, de la France des mers, par exemple, ou de l'Europe des océans. C'est un, on les trouve dans l'histoire... des mines du nord de la France, on les trouve dans nos champs, et c'est parce qu'il y a par exemple des agriculteurs qui se sont associés pour pouvoir produire, qu'ils ont créé une caisse commune, qui est devenue le Crédit Agricole après, qui est une banque de l'économie sociale et solidaire.
Est-ce qu'un mot-clé, c'est coopérative, par exemple ?
Ça peut être un mot-clé, c'est une traduction de l'entreprise, mais en tout cas dans l'histoire, ça existe. Mais il y a depuis 2014 une loi, celle du 31 juillet, qui vient définir, ou en tout cas mettre fin aux débats qui ont existé sur ce qu'est l'économie sociale et solidaire depuis, j'ai envie de dire, depuis toujours. Cette loi, à l'article 1er, dit un truc très simple, hein. L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre caractérisé par trois principes, et ce mode d'entreprendre concerne l'ensemble, je dis bien l'ensemble de l'activité économique humaine. Pourquoi ce n'est pas un secteur, pas un champ, mais c'est une façon de concevoir la production de biens et de services.
N'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, peut s'investir et se mettre dans ce cadre économie sociale et solidaire. Trois principes, vous disiez ?
Dès lors qu'elle respecte en effet ces trois principes. Le premier, et c'est pas des moindres, vraiment, c'est d'avoir une gouvernance démocratique. Certains que JP Morgan...
pas toujours simple dans les entreprises.
Je suis pas simple que des entreprises comme JP Morgan respectent cette notion-là. Le deuxième principe, c'est qu'en plus de faire de l'oseille, de faire du business, qui est tout à fait naturel dès lors qu'on a un modèle économique, c'est qu'on est dans la recherche de l'utilité sociale. C'est pourquoi on appelle l'ESS l'économie du bien commun. Et puis le troisième principe, c'est la question des bénéfices. Quand on en fait, ben justement, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, l'idée, c'est d'investir dans l'outil de travail principalement, et c'est surtout de ne pas rémunérer des actionnaires. Mais on peut, on sait, à la Brette, par exemple, ou à la CEPAC, ou au Crédit Coopératif, on rémunère, en revanche, les sociétaires, et c'est important. Mais déjà, quand on dit ces principes-là, il existe dans le droit français des formes juridiques qui déjà respectent cela. Donc ce sont les associations, les coopératives, les mutuelles, les sociétés commerciales, et ça c'est une nouveauté de la loi, les sociétés commerciales qui mettent ces trois principes dans leur statut. Hein.
Les SCOP, c'est bien ça ? Non, c'est autre chose, les SCOP.
Les SCOP, c'est des CARL avec des projets...
ça, c'est des sortes de coopératives.
Bien sûr, oui, c'est complètement des coopératives participatives, voilà. Et bon, il y a en effet les SCOP ou les SIC, il y a les coopératives classiques, il y a ces sociétés commerciales de l'ESS, et puis il y a des entreprises classiques qui peuvent obtenir un agrément qui s'appelle entreprise solidaire d'utilité sociale.
Peut-être, Denis Defer, que vous allez pouvoir nous éclairer un petit peu plus là-dessus, sur ce qui vient d'être dit. Je rappelle que vous êtes directeur associé de Regain. D'abord, un, Regain, qu'est-ce que c'est exactement ? Et puis, deux, rebondir sur les propos de Ben Amar Gadi.
Ben, Regain, tout simplement, on a eu la chance de pouvoir l'évoquer il y a quelques temps. C'est une jeune entreprise innovante, et qui a fondé son modèle économique dans sa capacité à pouvoir aider finalement nos réunionnaises et nos réunionnais à transformer leur idée en projet. Et quelque part à donner aussi cette réalité de parfois qui est présente dans chacun d'entre nous, qui est le déclic, qui dit « ben moi aujourd'hui j'ai envie de faire ça ». Ce que je fais aujourd'hui ne me satisfait pas complètement, mais j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie d'être utile à ma société, à ma communauté. Et ce déclic, finalement, va générer des idées. Et la difficulté, souvent, c'est de comment on passe de l'idée au projet. Et souvent, l'ESS, c'est un peu ce fondement-là, c'est-à-dire comment on est en situation de pouvoir passer d'esprit de communauté, de société, à dire finalement que chaque humain qui constitue cette société, comment il peut être utile à l'évolution, à la progression, à l'innovation économique sur la réalité du territoire.
Et on espère qu'il y a des femmes et des hommes politiques qui nous écoutent.
Est-ce que ça, c'est un nouveau désir finalement des gens qui sont à la recherche d'un emploi ou qui... Parce que peut-être qu'avant, dans un passé plus ou moins lointain, on avait besoin de travailler et le seul but, si j'ose dire, était de s'enrichir et de constituer un patrimoine. Aujourd'hui, ça ne suffit plus en réalité.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, nous, en ayant créé cette société, on est en plein dans l'analyse de ces phénomènes sociétaux et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une réalité aujourd'hui, en plus dans le contexte actuel de crise sociale, de crise sanitaire, de crise économique, il y a, malgré cette crise qui pourrait être étouffante, qui pourrait être immobilisante dans la réalité d'entreprendre, il y a une réalité qui s'émancipe, c'est-à-dire une réalité où les gens ont envie, ne peuvent plus considérer que la situation qu'il a l'heure aujourd'hui va être stable. Parce qu'effectivement, cette évolution de cadre fait que tout peut changer à tout moment. Et donc, globalement, ça favorise cette émancipation et cette expression. Et nous, par ce que nous faisons, la Casa Projet, dans son itinérance, elle récolte quelque part ce réceptacle d'idées. Et notre objectif, c'est qu'avec les partenaires qui existent sur l'ESS et autres, on puisse favoriser cette transformation d'idées en projets pour que, effectivement, les personnes puissent grandir dans la réalité de leur situation sociale. Parce qu'on le disait tout à l'heure, l'ESS, l'objectif, c'est aussi de faire grandir, finalement, les participants qui sont dans ces secteurs d'activité.
De cette crise, sont quand même se sont développées des choses très, très positives. Nous, en antenne, on a entendu beaucoup de gens nous proposer ou parler de leurs idées totalement innovantes, tout part de la base aussi. Alors, premièrement, vous allez nous confirmer ou pas si cette crise a quelque part provoqué quelque chose que vous n'aviez jamais connu. Et la deuxième question, ça serait, donnez-nous des exemples concrets ici à La Réunion, à travers vous, Denis Defargue, et à Mayotte, qu'est-ce qui se fait de très concret, concrètement, à travers ces entreprises? Quelles entreprises, dans quel domaine? Ben Amar Zegadi, peut-être?
Oui, et pour bondir sur ce que vient de dire Denis, on connaît une crise profonde de sens. C'est profondément ancré. C'était porté par des collectifs, des revendications plutôt dans le champ politique. C'est aujourd'hui dans le cœur de chacun. Et c'est d'importance à noter cette évolution. Quand on a connu un modèle qui nous rassurait, un modèle capitalistique classique, qui a permis les 30 glorieuses sur notre territoire et le développement de nos territoires.
Qui nous permettait d'être dans notre petite zone de confort.
Absolument. Ben on connaît une crise, celle de 2008, où là on se prend une belle gifle. C'est pourquoi d'ailleurs le législateur, après, en 2014, a décidé de reconnaître une forme d'économie plutôt résiliente, parce que c'est ça qu'est l'économie sociale et solidaire. Et là, une crise sanitaire mondiale qui fait que le système qu'on a, il n'arrive pas à nous produire des masques pour nous protéger. Donc la question du sens, elle est fondamentale pour nous dans l'économie sociale et solidaire. Mais en effet, c'est des entreprises aussi vieilles que moi, parce que je suis plutôt jeune, mais on a les mutuelles, la MGEN, c'est une entreprise très concrète, c'est-à-dire c'est l'idée que dans une caisse commune, fonction des revenus qu'on a, on investit dans le risque pour tous. Le risque de santé, c'est des banques, le crédit coopératif, et plus récemment, en passant par les caisses régionales du crédit agricole, pas forcément
l'entité
Wall
même.
Street, mais les caisses régionales de la CEPAC, du crédit agricole, etc., sont des banques de l'économie sociale et solidaire et financent du coup un peu cette économie.
Il y a certains auditeurs qui vont se dire quoi, des banques, économie sociale et solidaire,
que
et oui, pourtant c'est une réalité.
Ouais. Et il y a même des banques qui sont sur des formats nouveaux. Je pense en métropole, c'est développé dans le sillon du crédit coopératif, la NEF, la nouvelle économie fraternelle, qui est une banque qui permet de... Mais vraiment, la décision des orientations de prêts, etc., se font de façon très démocratique. Et on a vu que ces banques-là, mais il y a aussi les chèques déjeuner, Up. Les chèques déjeuner sont une coopérative qui produisent Alternatives économiques, le journal.
Tous les secteurs économiques sont concernés.
Absolument.
Ça peut être du commerce, ça peut être vraiment n'importe quoi.
Ça peut être
du bâtiment, ça peut être
absolument tout.
Des entreprises numériques aussi.
Absolument.
De plus en plus. Alors justement, est-ce que, et je reviens vers vous après, Denis Desfargues, est-ce que les jeunes ont des propensions à monter ce type d'économie, ce type d'entreprise liée à l'économie sociale et solidaire? Je pense que voilà, beaucoup de jeunes sont sur le numérique, sont sur des trucs très 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 innovants. Est-ce que vous les incitez à aller vers l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que c'est leur propre chef qui vont là-dessus?
Bien sûr qu'on va les inciter. Les CRES sont là pour faire la promotion de ce modèle en région. Nous les incitons, mais il y a un chiffre qui est absolument fascinant. En Europe, au moment où on se parle, aujourd'hui, une entreprise sur quatre qui se crée se fait en respectant les principes de l'économie sociale et solidaire dans ce mode d'entreprendre, sans qu'ils aient... ils le font de façon très intuitive.
Il y a un intérêt financier derrière ou pas?
Au départ, il y a surtout un intérêt de progrès humain. Et il y a des start-up sur la biotech qui se sont montées en disant, voilà, on est quatre chercheurs, on se met ensemble, on décide collectivement. Quand il y a des bénéfices, on les partage à part égale. Un homme égale une voix. Et puis, on va prendre avec nous de nouveaux collaborateurs, etc. Donc, du coup, on fait participer aux bénéfices au même titre que nous. Et puis, il va prendre part à la décision de la même façon que nous. Cette entreprise collective, cet entrepreneuriat collectif est le cœur même de l'ESS.
02 62 23 4 5 6 7. Évidemment, pour intervenir à l'antenne, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et nous parlons d'économie sociale et solidaire.
Denis Desfargues, vous constatez, vous aussi, qu'il y a un effet crise positif?
Oui, on le constate, nous, même si nous sommes aussi jeunes dans cette expertise et dans cette analyse, à travers Regain et la Casa Projet, on peut simplement dire, voilà, je vous donne un exemple. Nous, effectivement, on a créé cette entreprise dans l'ESS, hein, très clairement. Et après même pas 3 mois d'existence, on a déjà récolté plus de 100 expressions de projets qui sont relatifs à cette réalité de l'ESS.
Alors, parlez-nous voilà, un peu de ces projets, alors, de vos bébés, là.
Bien,
c'est un peu vos bébés quand même.
Ces projets, c'est quoi? Vous les avez vus apparaître à travers la crise sanitaire. C'est-à-dire, globalement, des premières expressions de réalité, de constat, par exemple par rapport à la pénurie alimentaire, par rapport à la problématique sanitaire. On évoquait tout à l'heure la problématique des masques, hein, c'est-à-dire que globalement, la solidarité qui a été exprimée a été d'aller rechercher des capacités de production locales et effectivement faites par des savoir-faire qui pouvaient peut-être s'éteindre dans l'économie d'avant, mais qui vont se réanimer dans l'économie d'après. C'est bien cela, la réalité de cette expression. Alors,
vous parliez des masques. L'entreprise qui fabrique des masques pays, là, dans le Sud, elle fait partie de la sphère de l'économie sociale et solidaire ou pas? Vous le savez, non?
Je ne sais pas si elle répond strictement aux critères qu'on vient de rappeler tout à l'heure. Ce que je peux dire certain, c'est qu'aujourd'hui, on a des petits collectifs qui se sont créés dans les quartiers, souvent encadrés par des régimes associatifs et qui ont mis en communion, et vous l'avez vu sur certaines pratiques, certaines couturières, et qui ont produit quelque part les premiers masques avant que les masques industriels, entre guillemets, puissent revenir sur le territoire de La Réunion. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les activités, c'est que je ne pense pas qu'aujourd'hui les Réunionnaises et les Réunionnais soient totalement bien structurés dans l'approche juridique de l'ESS. Ils en font sans savoir, de manière globale. C'est-à-dire que finalement, les 100 projets que nous avons recueillis dans cette expression des Réunionnaises et Réunionnais à notre contact, ça a été d'abord de se dire comment d'abord révéler ce qui est le plus humain en nous, de telle manière à faire progresser notre situation sociale et professionnelle. Et c'est ça l'essentiel qui est exprimé dans le départ. C'est un premier élément de déclic. Ensuite, vient se greffer des valeurs et des éléments de construction qu'ils vont peut-être acquérir à travers, effectivement, soit nous, par exemple la Casa Projet, où on leur donne ces éléments-là, on les aide à se structurer, on leur dit quels sont les dispositifs qui sont là pour pouvoir les aider à faire émerger leur projet.
Ceci dit, quand vous recevez un porteur de projet qui veut monter une entreprise, qui dit entreprise dit modèle économique. C'est là où peut-être la grande différence avec les associations qui sont à but non lucratif ou pas. Vous allez nous dire, Benamar, vous n'êtes pas d'accord. Mais voilà, comment on le trouve ce modèle économique? Est-ce que c'est ça un des critères les plus importants aussi? Parce qu'on ne peut pas être une entreprise sans gagner un peu d'argent quand même.
Oui, alors... J'aurais tendance à dire que la préoccupation des porteurs de projets, au départ, c'est pas forcément gagner de l'argent au-delà de la capacité de se rémunérer.
Il faut se faire un salaire quand même.
C'est d'abord se dire, est-ce que j'ai la capacité par mon idée, par mon projet, à structurer réellement mon emploi? C'est quand même ça l'idée de base.
D'en vivre en fait.
Et d'en vivre. C'est-à-dire globalement, c'est de dire, voilà. Et en même temps, on sent assez simplement que les expressions qui sont faites par, je vous parlais tout à l'heure des Réunionnaises qui sont dans cette maturité d'expression, sont en situation de dire, assez rapidement, dans cette ingéniosité du déclic de la révélation de soi, de dire, ben moi j'ai la capacité peut-être de créer un emploi assez direct. Parce que nous, quand on voit effectivement l'expression des gens qui nous ont dit, mais je ne peux pas faire seul, je peux faire avec quelqu'un, on va faire ensemble. Et effectivement, la notion de communauté, parce que l'ESS c'est aussi une communauté, c'est-à-dire finalement un réseau d'acteurs qui partagent des valeurs et qui finalement s'entraident dans la réalité des modèles économiques.
Sur parce le que, modèle un peu d'une coopérative d'entrepreneurs, ça échange beaucoup justement.
Par exemple, vous pouvez avoir, on l'a vu au Salon de l'Emploi, on en parlait la dernière fois, sur les coopératives d'emploi, sur des gens qui finalement sont sur un système où on n'a pas la capacité d'avoir une raison sociale immédiatement, mais on va aller chercher effectivement une coopération pouvoir abriter finalement socialement l'entreprise. Mais ce que je veux exprimer, c'est que la réalité des Réunionnaises et des Réunionnais qui se lancent dans la transformation de l'idée au projet et qui finalement portent cette première valeur qu'on vient d'exprimer, se met dans une situation de dire comment je vais pouvoir construire mon modèle. Mais ça part d'un élément fondamental, c'est les valeurs professionnelles qu'a le candidat, qu'a le Réunionnais. Parce qu'il y a un savoir-faire profond qui est installé à La Réunion comme à Mayotte.
Spécifique à La Réunion, spécifique à Mayotte.
Oui, parce que globalement, on est sur un environnement insulaire. Et je pense qu'il y a une culture fondamentale dans l'insularité, c'est que dans nos racines, dans notre histoire, il y a une réalité de, à un moment, il faut se débrouiller seul, il faut être capable de pouvoir finalement auto-générer sa réalité d'existence sur le territoire.
L'identité réunionnaise peut vivre à travers, doit vivre, et l'ESS permet de
l'identité de réunionnaise.
Vous le vivre, de continuer, de
vous l'avez compris. Vous l'avez compris, l'ESS à La Réunion, ça marche bien. Hein, les chiffres qu'on nous a dit tout à l'heure, ça marche très bien. Je pense qu'aujourd'hui, même sur les France d'au-delà des mers ou de l'outre-mer, pour
on est loin devant des ailes.
On est loin devant. Mais je pense que ça. Je pense que certainement rejoindront cette idée, c'est que ça vient du fait qu'à La Réunion, on a une culture du bien vivre ensemble qui passe par une réalité de solidarité sociale, qui fait que globalement, il y a ce terreau-là qui est effectivement qui favorise cette expression. Certes, l'évolution, je dirais, de la consommation nous a peut-être éloigné un peu de ses valeurs de base, mais la réalité de la crise sanitaire nous y ramène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui fait que, on l'a vu, hein, des éléments participant à l'alimentation de base à La Réunion, on est tombé en pénurie d'œufs, pénurie d'ail et d'oignons, des constituants de matières primaires, effectivement, à la cuisine et à l'alimentation sur le territoire, qui portent qu'effectivement, il y a différents secteurs, différentes, et on peut les citer, hein,
parce qu'on est plus résilient, voilà, on y arrive.
Qui vont porter, effectivement, et qui portent ce dynamisme d'action.
Benoît Marzegadi, vous avez tiqué quand j'ai évoqué les associations en but non lucratif, expliquez-nous pourquoi.
Mais oui, c'est parce que c'est une spécificité.
Idée reçue.
Très gauloise.
Ah.
En tout cas, dans l'administration publique. Les associations dans le droit communautaire, dans le droit européen, sont des entreprises point barre.
D'accord.
Les directives européennes sont claires en la matière.
Elles peuvent être à but non lucratif ou pas.
Voilà, c'est-à-dire qu'elles peuvent générer des bénéfices, sauf que dès lors qu'elles génèrent des bénéfices, elles sont fiscalisées comme n'importe quelle entreprise. Mais elles ont le droit de faire du brousouf, quoi. Donc il n'y a aucun sujet là-dessus. Et puis, d'un point de vue plus systémique...
On est en train de faire des petits réglages de micro, vous inquiétez pas.
Du point de vue plus systémique, on sait que si vous parliez de modèle économique, on sait que le développement de l'économie en France se fait aussi autour de politiques publiques dédiées. Et ça, c'est d'importance. C'est-à-dire que et c'est pourquoi le modèle français de l'économie sociale et solidaire est un modèle jalousé dans le monde entier, je vous le dis. Hein. Mmh. On travaille, nous, Mayotte travaille. Ah ouais, non, mais particulièrement ça, en plus de moi. Mais voilà. Il y a Mayotte travaille dans un cluster qu'elle a construit avec le Groenland et Aruba. Mmh. Le Groenland.
Ça n'a rien à voir avec la Covid. Hein. Si on dit le mot cluster, c'est pas que forcément lié à la Covid.
Un regroupement
si on veut être. Et en même temps, c'est sur la question du Covid qui se sont organisés, comment les entreprises l'entrepreneuriat social de ces trois territoires pouvaient générer de la solidarité collective sur le sujet la Covid-19. Mais ce regroupement a permis, par exemple, à ce que Mayotte accompagne le Groenland à la création d'une coopérative de pêcheurs. Comment Mayotte, et ça c'est très intéressant, que l'océan Indien, pour qui, et je suis d'accord avec ce que Denis a dit, vraiment, on le sait bien, on le sent bien, qu'on aille à Mada, à Mayotte, aux Comores, à La Réunion, je dirais même à Maurice dans une certaine mesure, l'économie sociale et solidaire, en tout cas les trois principes, sont vraiment dans l'ADN des gens. Il y a un ADN culturel et il fait partie de... Dès lors qu'on parle de ça, il me dit, mais ça, moi, mon grand-père, il faisait ça. Mmh. Ben oui, ben c'est ça, viens me voir et puis tu vas gagner ta vie avec. Mais le modèle économique, il est autour des marchés publics. Aujourd'hui, majoritairement, les marchés publics, par exemple, qui stimulent l'hybridation des modèles, génèrent du chiffre d'affaires. Depuis Keynes, hein, c'est comme ça. Hein. Pour relancer l'économie, on fait de la commande publique et la commande publique génère des marchés publics, etc. Profite majoritairement aux entreprises classiques. Et de plus en plus, par la volonté de la puissance publique, hein, dans toutes ses formes, que ce soit les collectivités ou l'État aujourd'hui avec le plan de relance.
Il y a un petit critère en plus.
On dit il faut laisser plus de place aux entreprises.
Les ESS sont privilégiées, peut-être.
De plus en plus. En tout cas, nous plaidoyons, et les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, qu'il y a dans chaque région, il y en a 18, plaidoient pour ça.
Ils ne sont pas un petit peu oubliés, peut-être, les CRES. Alors, vous citiez l'exemple du Groenland, et vous en parliez déjà dans cette audition donc du 1er juillet 2020 avec l'Assemblée nationale. Vous vous étiez réunis avec toutes les CRES de l'Outre-mer, en fait, celle de la Guadeloupe, celle de Mayotte et de la Réunion, parce qu'il n'y en a pas d'autres, je crois.
Il y en a en Guyane.
Juste, et là, vous accusiez un retard de subvention. Il manquait 2 millions d'euros dans les caisses, et donc, du coup, ça avait entraîné des retards sur le terrain. Les structures en avaient souffert aussi. Donc on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand on est à la tête d'une CRES, quand on voit finalement la volonté politique et toutes les innovations que propose l'ESS? Est-ce qu'il n'y a pas un petit décalage et peut-être voilà, on n'est peut-être pas l'ESS n'est pas prise à sa juste valeur?
Je rappelle juste le numéro du standard 0202-234-567 pour nous appeler. Nous sommes en direct.
Ah, c'est certain, il y a un gap dans le game.
C'est beau, mais quand même.
C'est-à-dire... Un gap dans le game.
C'est une expression cressoise.
D'accord.
Ça
veut dire
qui veut dire qu'il y a un différentiel important entre ce que dit la réglementation, la loi, et comment ça se traduit clairement derrière, par exemple, dans un schéma, le SRDO2I, qui est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation.
Ça fait plaisir.
Qui est développé d'abord dans la loi du 31 juillet 2014, ensuite dans ce qu'on appelle la loi NOTRe, qui impose aux régions, qui leur donne plus de pouvoir, plus de moyens, en leur disant à condition de vous doter en matière de développement économique d'un schéma, lequel doit avoir en son sein une stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire. Et je vous assure, quand on prend celui de la Réunion, quand on prend celui de la Réunion, on a l'impression que c'est plutôt du stress généré pour la région. Et là, du coup, c'est un vrai sujet. Alors que quand on prend celui de Mayotte, où la volonté politique est très marquée, très forte, cette stress est un élément de transversalité du SRDE2I.
Parce que peut-être à Mayotte, les politiques savent qu'ils n'ont pas le choix.
Ben, en tout cas, je pense qu'ils ont une intuition.
Ils sont pieds dos au mur.
Ou plutôt le nez devant. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'intuition que le monde entier est en train de parler de transition, y compris économique. C'est-à-dire comment on est en train de basculer.
Et j'ai dit, elle nous appartient.
Et c'est ça. Et je pense qu'à Mayotte, l'intuition est forte de se dire, bon, à l'instar de ce que le continent africain a fait sur le téléphone, c'est-à-dire on passe de rien à du 4G, nous, Mayotte, on passe du non-développement ou du sous-développement à l'économie du 21e siècle. Et je rappelle qu'en la matière, quand même, on est en 2020, c'est-à-dire 20 ans après le début du 21e siècle. Il est temps de changer de paradigme.
Alors, vous parliez de l'Afrique, pardon, Johanna, vous parliez de l'Afrique, justement, ça, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que le modèle à la française de l'ESS est exportable? Alors, est-ce qu'on peut le faire facilement? Et deux, surtout, est-ce qu'il y a de la demande de pays africains, voire de pays américains, du reste du monde? Est-ce qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait en matière d'ESS?
Mais profondément, et ils prennent exemple sur ce qui peut se passer dans l'océan Indien. dans l'océan Indien et pas à Clermont-Ferrand, c'est clair. J'ai rien contre Clermont-Ferrand,
oui.
Très cher Réunionnais qui habitait à Clermont.
C'est les cousins de volcan.
Pas de sujet. Mais très, très concrètement, par exemple, Djibouti, le Cameroun et le Togo demain, parce qu'en plus on va tenir un webinaire avec eux et les collectivités, les maires du Togo.
Sur les mêmes secteurs, sur les mêmes domaines d'intervention, vous parliez de la 4G tout à l'heure en Afrique, c'est vraiment voilà, la téléphonie, le numérique, enfin n'importe quoi, comme ici à La Réunion ou à Mayotte.
Surtout, ces pays que je viens de citer nous sollicitent pour les appuyer dans la conception de l'écosystème ESS. Et on leur a dit que ce serait bien d'avoir une loi ou une réglementation qui porte la volonté publique et donne du coup un cadrage au développement d'un écosystème. Ils ont tous rédigé une loi. Parce que c'est comme ça qu'on a fait à la française. Et puis sur les champs ou les disciplines, franchement, ils sont en avance sur l'Europe, l'Afrique.
Un exemple très d'actualité, on est presque en Afrique, c'est à Madagascar. Vous savez, le Kéré, dans le sud de Madagascar. Quel rôle pourrait avoir l'économie sociale et solidaire pour résoudre à long terme et ne pas avoir du Kéré tous les deux ans dans le sud malgache?
Est-ce que des projets sont lancés en ce sens?
Oui.
Alors,
je pense que il y a deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, on parle de l'ESS comme parfois un moteur d'opportunité. Et effectivement, on pourrait dire que sur certains territoires, l'opportunité de ces modèles structure finalement des émergences de nouvelles activités. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des contextes qui sont différents, même si on est dans une proximité, je dirais, océanique, de très, 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 finalement refermée, enfin, pas refermée, mais d'une proximité très relative. Ce qu'on peut constater, c'est que sur le territoire de Mayotte, il y a une urgence au développement et qu'effectivement l'ESS est le moteur exceptionnel au rattrapage et à l'exécution de ce développement.
Avec Mayotte, les moyens de la métropole qui sont quand même déployés, ce qui n'est pas le cas par exemple sur Madagascar.
Mais attendez, à Mayotte, on peut en parler avec Ben, il y a des moyens à Mayotte, sauf qu'on n'arrive pas à les dépenser. On n'arrive pas à déployer.
Je crois qu'on a le même problème à La Réunion aussi.
Pas complètement, parce qu'à La Réunion...
La dernière fois, le ministre avait dit « Oui, il y a plein d'argent encore dans mon ministère, qu'est-ce que vous faites hein ?»
Oui, alors, c'est très relatif. Mais ce que je veux dire par là, sur Mayotte, on a des dotations qui sont très importantes. On a plus d'un milliard qui doit être dépensé selon 5 ans.
Ah oui.
Et aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est que le système, je dirais, d'organisation projet public et même privé, trouve pas de capacité à pouvoir mettre en œuvre les projets. Et là, on fait appel à quoi? Et c'est l'ESS qui prend le relais parce que c'est cette capacité à pouvoir intégrer de manière effectivement sociale et solidaire dans le territoire cette accélération. À La Réunion, on a le même parallèle. On a le parallèle dans la problématique quand on est en difficulté. C'est-à-dire que quand on est en situation de pénurie ou en situation de crise économique, d'un seul coup, c'est l'ESS qui revient en soutien parce que c'est l'humain qui revient se positionner pour pouvoir combler les manques qui n'ont pas été structurés par les politiques publiques.
Comme la crise environnementale que l'on connaît aujourd'hui, et l'économie sociale et solidaire, et je pense qu'on terminera là-dessus, peut permettre à trouver de réelles solutions parce que les porteurs de projets se penchent particulièrement sur cette question. Et là où finalement l'économie classique, j'aime pas ce mot, mais vous m'aurez compris, autre que ESS, a échoué finalement.
Oui,
très vite.
Oui, très vite. C'est même un sujet de l'économie sociale et solidaire. Si aujourd'hui on a d'un point de vue politique ce sujet, c'est-à-dire celui de la transition écologique est d'ailleurs plutôt solidaire, c'est parce qu'il y a des entreprises de l'économie sociale et solidaire comme Greenpeace, comme d'autres qui ont fait des plaidoyers importants.
Précurseurs.
Et voilà. Et donc il n'est pas question que... J'aime pas trop les pompiers pyromanes, moi. Je préfère que les gens qui ont dénoncé le sujet travaillent sur des questions d'économie circulaire, de transition énergétique, etc.
Ce que je vous propose, vous savez que l'émission est déjà terminée, vous vous en rendez pas compte, mais j'ai très envie de réécouter cette magnifique musique de la chanson de Zili, et je pense que Benamar Zegali sera d'accord. ESS Song, juste avant de rediffuser un petit peu cette chanson, les contacts, les sites internet, messieurs, s'il vous plaît. Regain, par exemple.
Oui, donc Regain, tous les Réunionnaises et Réunionnais peuvent nous contacter au 02 62 41 56 23, 62 41 56 23. Le site internet, c'est www.regain.re. ou alors l'adresse mail regainrun@gmail.com pour déclarer vos idées pour devenir demain des projets.
Et plus largement, l'ESS, où est-ce qu'on peut se renseigner un petit peu sur...
Il suffit de taper économie sociale et solidaire dans Google et ça va bien se passer.
Les CRES, important partenaire de la chose.
Absolument, et il y a le site de la CRES de La Réunion, et franchement, il faut aller vraiment les voir, il y a une équipe formidable. Qui vous feront bien l'accueil, qui vont vous accompagner.
Merci beaucoup.
Merci, messieurs.
Ben Amar, Zegadi, délégué national pour l'économie sociale et solidaire France à l'Outre-mer, l'Europe et internationale. Denis Defargue, directeur associé de Regain. Merci à vous et à très 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 bientôt.
Sur RTL Réunion,
on refait la Réunion.
Chimulani aima ore na mujeri unre aima ore wa mojana la cresi oye.
Merci de nous rejoindre sur RTL, il est 13h.
La bonne réponse, c'était Olivier Bois.
Bonjour Julien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Le procès de Jonathan Daval a repris ce matin après son malaise hier soir en pleine audience. Il s'est évanoui, il a passé la nuit à l'hôpital. L'audience d'hier avait été particulièrement tendue. La mère, le père, la sœur d'Alexia s'étaient succédé à la barre, lui parlant parfois directement. Jonathan Daval s'est excusé auprès d'eux et malgré le retard pris, le verdict est toujours attendu demain vendredi. Autre procès dont on parle beaucoup cette semaine, le procès de l'attentat manqué du Thalys en 2015. Normalement, L'un des soldats américains, Spencer Stone, qui avait été l'un des héros ce jour-là en se précipitant sur le terroriste qui s'apprêtait à passer à l'action, lui aussi a été hospitalisé à son arrivée hier à Roissy. On ne sait pas s'il pourra témoigner cet après-midi. On ne connaît pas la cause de ce malaise. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, estime qu'il n'est pas raisonnable de décaler le Black Friday comme le propose le ministre de l'économie Bruno Le Maire. C'est trop tard, selon lui, pour le faire. Les enseignants ont déjà prévu les catalogues de promotion. Et c'est ce que donc Geoffroy Roux-de-Bézieux a dit ce matin sur RTL. Pour lui, la bonne solution, seule qu'attendent les commerçants, c'est de maintenir le Black Friday et de rouvrir tous les magasins dès le 27 novembre. Chez Renault, le plan de suppression de 2500 postes dans l'ingénierie et les fonctions tertiaires a été entériné après force ouvrière. C'est la CFE-CGC qui a signé